Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'une star de l'audiovisuel qui ne se la raconte pas pour autant, même si attention, derrière son éternel sourire sympathique se cache quand même un patron pointilleux. Hier, Ernesto, son valet de pied portoricain, a eu le malheur de lui demander une augmentation. Stéphane lui a dit... Bonjour Stéphane Bern. Embrassez Ernesto pour moi.
Bonjour Mathieu, je ne connais pas d'Ernesto, mais
j'ai changé le nom.
Je n'ai pas de valet de pied, mais en fait vous me confondez avec la reine d'Angleterre. D'accord. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, l'émission où, vous l'avez dit, on ne se la raconte pas, même si vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, notamment en podcast. Plus de 900 000 téléchargements chaque mois. Avec Mathieu et toute l'équipe, on tenait à vous dire merci pour votre fidélité qui nous touche vraiment.
Un grand merci. Si on passe la barre des 1 million par mois, ce qui en plus symboliquement serait beau, puisque ça correspond au salaire brut de Stéphane, promis, on présente l'émission torse nu.
Bref, aujourd'hui, au programme, comme d'habitude, trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun, leurs yeux.
T'as de beaux yeux, tu sais.
C'est le thème de notre émission cet après-midi, dans laquelle on réunit trois dames qui sont entrées dans la légende d'un simple regard. D'abord, Anne Boleyn, à son regard bleu-noir, avant que lui ne fasse tomber la sienne. Vous verrez. Puis, elle avait de beaux yeux, et elle le savait, grâce à Jean Gabin et sa mythique réplique dans Quai des Brumes, une réplique que l'on doit à un poète très célèbre. Je vous raconte le destin de l'actrice Michèle Morgan. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon, à 99% vrai, d'une femme dont le regard est célèbre à 100%.
Oui, Stéphane, ce regard d'un verre qui vous transperce, c'est celui qu'on a découvert en 1985 à la une de National Geographic. 20 ans après, le photographe a retrouvé cette jeune fille aux yeux verts dont l'image est devenue l'emblème des réfugiés afghans. Elle s'appelle Sharbat Gula et sa vie, vous allez voir, est loin d'être un conte de fées.
Eux, en revanche, ils vivent auprès de nous un véritable conte de fées. Ce sont...
Qui est l'auteur de cette transition?
Je ne sais plus, mais ça c'est bon.
Ce sont nos chroniqueurs. D'abord, déjà ils vont en manger. Ils ont un boulot quand même.
C'est vrai.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire d'une jeune femme qui a plutôt brillé par son absence de regard que par ses beaux yeux. C'était Hélène Keller. Ça vous dit quelque chose, Hélène Keller?
Elle était aveugle.
Et
sourde.
Oui, et muette.
Elle ne dit pas tout.
Oui, tout à fait. C'est la première aveugle sourde muette américaine à obtenir un diplôme universitaire et à devenir écrivaine. Mais dans cet extraordinaire et brillant parcours, il y a eu une sévère Annie Croche qui aurait pu la discréditer à jamais. Avait-elle ou non plagié l'œuvre d'une autre?
David Castello-Lopez est là aussi, Stéphane.
Oui, il remonte aux origines d'un objet ou d'une invention.
Voilà, là c'est le couteau suisse.
Mais là, attention à ce que vous allez raconter sur le couteau suisse, David.
Olivier Pouls, alors va nous parler. On est parlé vendredi, on était dans un goûter merveilleux avec ce plum cake, et alors là, c'est carrément un autre univers.
Oui, je me suis dit que vous n'auriez peut-être pas beaucoup de temps pour cuisiner ce soir, que vous feriez un steak haché. Mais alors, quelle est l'histoire du steak haché, de la viande hachée? Vous verrez qu'au fil du temps, c'était assez intéressant.
Vous
n'avez pas l'air convaincu, Stéphane, du fait que ce soit intéressant.
Mais si, ça me passionne. Mais vous savez, c'est toujours le menu pour enfants dans les restaurants.
Ah oui, mais
il y a marqué steak haché.
Ah oui, attends, le steak haché du boucher, ça peut être très bon.
Ah ben, ça peut être très bon.
Ah oui, attention.
Mais cuit ou...
Sinon, c'est un tartare.
Ah ben oui, sinon, c'est un tartare.
Oui, mais on a l'aller-retour. Il y a l'aller-retour.
C'est ridicule, l'aller-retour. On dit, je veux un tartare aller-retour. C'est un tartare, c'est cru, point final. C'est pas cru, un peu cuit, c'est cru, point final.
On dit que la viande des Mongols cuisés sous leur sel, là, Attila, au champ catalonique. Donc c'est bien que c'est un peu cuit par le frottement du steak contre la selle. Il y a une réaction de maillard par le frottement de la selle contre la bidoche.
Mes amis, il est 17h33. Il est temps d'avancer dans cette émission. N'y couperez pas, Stéphane. Aux alentours de 5h10, nous jouerons à Burn to be Alive. Ce quiz vicieux que vous redoutez tant. Essayez de relativiser, dans quelques semaines, vous allez y jouer torse nu. Mais tout de suite, découvrons notre personnage qui avait de beaux yeux. Si beaux qu'elle a fait tourner la tête du terrible roi Henri VIII et fait basculer au passage l'Angleterre dans le protestantisme avant de finir la tête coupée. Oui, avoir de beaux yeux n'a pas que du bon. Derrière ses lunettes fumées, Stéphane Bern nous raconte Anne Boleyn.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a en effet de beaux yeux de couleur bleu noir dont la profondeur est accentuée par ses longs cheveux bruns. Ceux qui l'ont vue auraient été fascinés par son regard hypnotique. Mais pour autant, Anne Boleyn n'est pas un canon de beauté. Le teint jaunâtre, le cou gonflé, une dent mal plantée, ses contemporains lui attribuent même 6 doigts à la main droite, sûrement une malformation de l'auriculaire et pas moins de 3 seins. Voilà qui est étonnant. N'y aurait-il pas un peu de jalousie là-dedans ? Toujours est-il que son pouvoir d'attraction est bien présent tout autant que ses prétendants. Le roi Henri VIII lui-même succombe au charme de la demoiselle au point de faire chavirer le destin de l'Angleterre. Avec elle, la monarchie britannique rompt avec le catholicisme et embrasse une nouvelle religion, l'anglicanisme. Mais qui est donc cette putain aux gros yeux ? Ah oui, visiblement ils étaient gros en plus d'être beaux. Ce n'est pas moi qui le dis, vous l'avez compris Mathieu, mais bien ses détracteurs qui la présentent ainsi. Anne Boleyn fut de mauvaise lignée, de mauvaise réputation avant son mariage, puis exécutée pour adultère. On vous propose aujourd'hui un portrait, disons, un peu plus nuancé. Née au tout début du XVIe siècle, très probablement en 1501, Anne Boleyn est la fille du diplomate et homme de cour Thomas Boleyn et d'Elizabeth Howard, fille du duc de Norfolk. Elle touche ainsi à la plus haute noblesse britannique et sa place l'attend chaudement à la cour. Le roi d'Angleterre est alors Henri VII, le fondateur de la dynastie des Tudors. Lorsqu'il meurt en 1509, c'est son fils, le fougueux Henri VIII, qui monte sur le trône avec sa nouvelle épouse, la veuve de son frère, Catherine d'Aragon. Personne ne se doute que la reine consort du royaume d'Angleterre va être éclipsée par Anne, cette petite fille de tout juste 8 ans. Lorsque son père est nommé ambassadeur à la cour de Marguerite d'Autriche, Anne le suit et devient dame de compagnie de la régente des Pays-Bas. Là-bas, elle apprend le français, la danse et les bonnes manières, mais aussi le tir à l'arc, le dressage de faucons, la chasse et l'équitation. C'est donc avec de nombreuses cordes à son arc qu'elle rejoint ensuite la cour de la reine Claude de France, l'épouse de François Ier. En 1522, Anne Boleyn est de retour à la cour d'Angleterre. Surnommée le miroir de la mode, elle impressionne tout Windsor. Elle a 21 ans, le roi 31, et la pauvre reine déjà 37 ans passés. Catherine d'Aragon est une belle femme, mais sa peau claire et ses cheveux blonds en font l'opposé d'Anne Boleyn. Et surtout, elle ne parvient pas à donner un héritier mâle à Henri VIII. Un véritable problème, car les descendants des Plantagenets menacent à ce moment-là la légitimité des Tudors. Des 6 grossesses de la reine consorte, seule une fille survit, la future Marie Tudor. Alors bientôt, Henri VIII ne partage plus le lit de son épouse. Il multiplie les infidélités, avec la famille Boleyn par exemple. Mary, la sœur, et Elisabeth, la mère même, selon certaines rumeurs. Mais celle qui tape vraiment dans l'œil du roi, c'est Anne. La jolie brune est alors fiancée à un certain Henry Percy. Il n'en sera pas ainsi. Henri VIII fait en sorte que le jeune homme en épouse une autre. La voie étant libre, il courtise avec ferveur sa belle et tombe chaque jour un peu plus amoureux. Dans l'une de ses nombreuses lettres enflammées, le roi écrit « Je vous supplie maintenant, avec le plus grand sérieux, de me faire connaître vos complètes intentions s'agissant de notre amour. Je dois absolument obtenir cette réponse de vous, étant depuis plus d'un an piqué par le dard de l'amour et n'étant pas encore certain si j'échouerai ou si je trouverai une place dans votre cœur. » Sur ses lettres, il dessine des petits cœurs et mêlent leurs initiales. Oh, un véritable ado, c'est Henri VIII. Mais Anne Boleyn se fait désirer. Son prétendant, qui souhaite avoir un héritier, le comprend. Il lui faut divorcer. Mais à l'époque, une seule personne peut prononcer l'annulation d'un mariage. C'est le pape. Car le mariage est un sacrement, et je vous le rappelle, Mathieu, il faudra attendre la Révolution pour assister à la naissance du mariage civil. Henri VIII charge alors son principal conseiller, le cardinal Thomas Wolsey, d'obtenir l'annulation de son mariage du pape Clément VII. Bon, le pape est quelque peu occupé. En 1527, les troupes de Charles Quint assiègent Rome. Alors, est-ce une bonne idée de prononcer le divorce d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, qui n'est autre que la tante de son ennemi ? Il ne faudra pas moins de 3 Thomas pour accélérer le processus. Tous vont intercéder. Thomas More, qui réunit une foule de théologiens et d'universitaires européens pour interpréter les textes et aboutir à la conclusion que le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon est illégal et illégitime. Thomas Cranmer, futur archevêque de Canterbury, et Thomas Cromwell, futur principal ministre, qui défendent le principe de suprématie royale et conseillent vivement au roi de s'affranchir du pape. Henri VIII réunit le Parlement. Celui-ci penche plutôt de son côté alors qu'une minorité de ses membres flirte avec les théories de Luther, l'instigateur de la réforme protestante. Alors une série de lois votées dans les années 1530 affranchit petit à petit l'Angleterre de l'autorité de Rome. Mais le processus traîne en longueur et Anne Boleyn finit par céder aux avances royales et tombe enceinte. Le nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, prononce aussitôt le divorce et Catherine d'Aragon est exilée de la cour. Ça y est, Henri VIII et Anne Boleyn sont enfin unis par les liens du mariage le 28 mai 1533. Anne Boleyn est couronnée à Westminster le 1er juin et donne naissance quelques mois plus tard à une fille, la future reine Élisabeth Ière d'Angleterre. Le Parlement vote alors l'acte de suprématie en 1534 qui fonde l'Église anglicane. Tout ça pour les beaux yeux d'Anne Boleyn, mais Anne n'a pas tout vu. Et Henri VIII va rapidement se lasser d'elle. Alors qu'elle avait pourtant bien manœuvré, la voilà désormais reine consort d'Angleterre, Anne Boleyn ne coule pas vraiment des jours heureux. La favorite multiplie les fausses couches tandis que son mari découche. Alors qu'il a fait des pieds et des mains jusqu'à rompre avec le pape pour épouser sa belle, Henri VIII se tourne déjà vers d'autres conquêtes. Oh, pas besoin d'aller les chercher très loin. Il jette son dévolu sur Jane Seymour, cousine germaine et femme de chambre de son épouse. Alors que le roi profite des plaisirs de la chair, Anne Boleyn se montre quelque peu bipolaire. Son humeur alterne entre des phases de dépression et d'excitation extrême. Elle a beaucoup d'ennemis à la cour, bon, des jaloux sans doute. Et le peuple, qui la considère comme une usurpatrice, a pris le parti de Catherine d'Aragon. Lorsqu'elle apprend la mort de l'ex-femme de son époux en 1536, Anne Boleyn a du mal à cacher sa joie et affiche un sourire béat. Cette même année, alors qu'elle assiste à un tournoi à Greenwich, le roi Henri VIII remarque qu'un chevalier ramasse le mouchoir qu'elle a fait tomber et le porte au visage de celle qui est son épouse. Quel affront! Le roi fait arrêter ce dénommé Norris, mais ça ne suffit pas pour calmer sa jalousie, surtout que les rumeurs sur les infidélités d'Anne vont bon train. Il fait donc aussi arrêter le frère d'Anne, Lord Rochford, et le musicien Mark Smeaton, dont elle est très proche. Tous sont accusés d'être les amants de la reine. Mark Smeaton confesse, sous la torture bien sûr. Henri VIII convoque aussitôt l'archevêque de Canterbury, qui annule son mariage avec Anne Boleyn. Tout ça pour ça. La reine déchue est enfermée à la tour de Londres. Après un procès expéditif où quelques témoins sont venus corroborer l'accusation, elle est reconnue coupable d'adultère et d'inceste. La sentence est irrévocable. La voilà condamnée à mort par décapitation ou par le feu, pour reprendre les mots, selon le bon plaisir du roi. Vêtue d'une grande robe grise en soie bordée de fourrure et d'une cape rouge, Anne Boleyn monte sur l'échafaud de la tour de Londres le matin du vendredi 19 mai 1536. Un unique coup de hache du bourreau fait tomber sa tête et ses beaux yeux avec.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Anne Boleyn, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Gétaud. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Stéphane Gétaud, vous êtes historien, spécialiste des îles britanniques de l'époque moderne, maître de conférences à l'université de Paris-Sorbonne et co-auteur de l'ouvrage « L'Angleterre à l'époque moderne, des Tudors au dernier Stuart » qui vient de paraître aux éditions Armand Collin. Anne Boleyn, devenue Tudor, est célèbre surtout pour avoir déclenché le divorce d'Henri VIII d'Angleterre avec Catherine d'Aragon, ce qui a amené l'Angleterre à prendre plutôt ses distances avec la papauté. Plus qu'un pouvoir de séduction, elle a eu donc un véritable pouvoir politique, cette Anne Boleyn.
Oui, tout à fait. Elle fait partie de cette galerie de personnages féminins du XVIe siècle, comme Marie Tudor, Marie Stuart ou Elisabeth, qui sont associées à des événements politiques considérables. Et les historiens sont très divisés sur leur influence politique réelle. Dans le cas d'Anne Boleyn, nous sommes confrontés à un problème de sources, c'est qu'en fait nous avons très peu d'informations sur elle. Et des sources aussi qui sont discordantes.
Alors, en tout cas, la vie d'Anne Boleyn est vraiment digne d'une tragédie grecque. Elle a cherché à gagner le cœur du roi, bien contente de faire évincer la reine. Et puis ensuite, c'est elle-même qui s'est faite évincer, puisqu'on parle de ses yeux cet après-midi. Est-ce qu'elle avait justement une vision précise ? Est-ce qu'elle était vraiment stratège ?
Alors, ses ennemis, la petite Marie Tudor, donc la fille de Catherine d'Aragon, qui a été évincée, lui prête effectivement... un plan, un secret complot pour s'imposer à la cour. Et il y a notamment beaucoup d'anecdotes autour de la manière dont Henri VIII l'aurait courtisée. Et par calcul, elle se serait refusée au roi et aurait réussi à tenir plusieurs années pour appâter sa cible. Mais on pense que dans le contexte de l'époque, la cour est en fait très instable avec des factions ministérielles qui changent du jour au lendemain et surtout le caractère en Henri VIII capricieux, bipolaire, qui fait qu'il est difficile d'imaginer une reine qui serait entièrement tirée les ficelles du destin du roi et d'elle-même.
Mmh. Mais une fois devenue reine consorte, c'est-à-dire une fois que Henri VIII l'a épousée après avoir répudié en quelque sorte ou divorcé de Catherine d'Aragon, est-ce qu'elle a joué un rôle important à la cour d'Angleterre ? Est-ce qu'elle a lancé des modes ? Est-ce qu'elle a, à part avoir eu une fille qui deviendra la célèbre reine vierge Élisabeth Ière d'Angleterre, quel rôle a-t-elle réellement joué ?
Alors, pour les reines consorts, elles ont un rôle traditionnel qui est celui de l'entretien d'une cour et elle-même s'est distinguée par... une cour remarquable, inspirée du modèle français. Donc la cour d'Angleterre, qui est un peu provinciale, s'est animée de nouveaux jeux d'artistes. Elle a notamment assuré le mécénat de peintres remarquables comme Holbein le Jeune ou de poètes comme James Watt. Mais il est difficile d'accepter qu'une femme associée à des bouleversements politiques aussi importants n'ait pu ne pas avoir un rôle considérable. Mmh. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'unanimité chez les historiens.
Alors, de beaux yeux, Anne Boleyn en avait indéniablement apparemment, d'incroyables yeux bleu-noir. Mais dans le récit de Stéphane, on apprend qu'elle était dépeinte aussi comme une femme laide, difforme, traitée d'usurpatrice, de putain aux gros yeux. L'expression m'a choqué dans la bouche de Stéphane tout à l'heure. Pourtant, elle est aussi entrée dans la postérité pour ses incroyables yeux. Comment ces deux versions peuvent coexister ? Ça paraît assez étrange.
Alors, le témoignage le plus intéressant, c'est celui d'un prêtre catholique au temps d'Élisabeth, qui estime que cette reine est à la fois monstrueuse, avec six doigts, avec des difformités qu'elle cache sous sa robe, et en même temps très belle. Et alors donc, au sein même de ce témoignage contradictoire, il est difficile pour nous de comprendre la logique. Et la logique est en fait religieuse, c'est-à-dire que derrière des apparences, elle montre la vilénie de son caractère. Donc, c'est une sorcière qui arrive à ensorceler le roi et toute la cour. Le caractère contradictoire des témoignages se résout d'une certaine manière par la question de la sorcellerie. Elle envoûte sa cour et, comme les sorcières, elle arrive à dissimuler ses vices sous donc un charme exceptionnel.
Lorsque la première épouse d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, ne parvient pas à lui donner de fils, le roi jette son dévolu sur Anne Boleyn. Pourquoi elle ? Les yeux peut-être, mais pas uniquement. Elle représentait aussi quelque chose.
Oui, alors tout à fait. La séduction qu'exerce Anne Boleyn ne vient pas nécessairement de son physique, qui, on l'a vu, est contrasté. Elle vient... de ces manières de cour que vous avez évoquées lors de la présentation, la cour de France, son esprit, son entrain aussi, qui contraste avec le caractère un peu taciturne de la première femme d'Henri VIII, choisir une Anglaise qui est associée au duc de Norfolk, qui est associée à des clientèles puissantes dans le royaume, permettrait d'une certaine manière de faire accepter au peuple ce nouveau choix.
Dans votre livre « Histoire de l'Angleterre moderne des Tudors au dernier Stuart », vous décrivez, et Stéphane en a parlé aussi, un personnage très important dans l'histoire d'Anne Boleyn, Thomas Cromwell. Il était un de ses alliés, mais finalement c'est lui qui a orchestré sa chute.
Tout à fait. Donc c'est une entreprise collective qui conduit à son succès et à son statut de reine. Mais progressivement, il naît une discorde entre les deux, notamment sur les questions politiques. Et là, Anne Boleyn va sortir de son rôle de reine consort à partir des années 1534, notamment sur une question très précise qui est le sort des fondations monastiques. Puisque l'Église d'Angleterre passe dorénavant sous le contrôle du roi, se pose la question des richesses considérables des monastères. Thomas Cromwell souhaiterait renforcer l'État en vendant les biens monastiques aux familles de laïcs. Anne aurait souhaité plutôt utiliser cette fortune considérable pour développer un fonds de charité pour les nécessiteux. Et donc, elle souhaiterait pouvoir utiliser ses domaines et ses ressources pour développer des structures d'aide aux plus pauvres. Et là, Cromwell ne supporte pas cette ingérence. Et le deuxième élément de cette discorde, c'est pour des raisons diplomatiques. Anne Boleyn est proche de la France, d'une alliance avec l'ambassade de France, alors que lui souhaiterait un rapprochement avec Charles Quint. Et il déplore cette ingérence jugée inacceptable pour une femme.
Mmh. Mais lorsque Henri VIII finit par se lasser des beaux yeux d'Anne Boleyn, surtout du fait qu'elle ne puisse pas lui donner un héritier mâle, elle est accusée d'adultère et d'inceste. Soyons honnêtes, ces accusations étaient injustifiées.
Alors un historien propose une autre hypothèse. C'est plutôt la cour d'Anne Boleyn, son esprit courtois, son jeu, ses jeux de mots notamment. Et il semble qu'elle aurait fait un jeu de mots déplacé sur la virilité d'Henri VIII, qui aurait été rapporté ensuite à l'oreille du roi. En un mois, elle passe d'une position de force à la tour de Londres. Donc c'est une disgrâce très brutale qui, semble-t-il, viendrait d'un complot organisé par Cromwell pour discréditer une femme auprès d'un roi de plus en plus paranoïaque. Certains ont parlé d'une profonde crise de la quarantaine qui fait que le roi est de plus en plus instable et voudrait pouvoir changer d'épouse d'un claquement de doigts.
Mais on se souvient que Catherine d'Aragon, elle a été exilée de la cour. Pourquoi est-ce qu'il a fallu décapiter cette pauvre Anne Boleyn ? On aurait pu l'exiler aussi.
Alors effectivement, Catherine d'Aragon, elle est protégée par son statut de princesse. Ah, oui, et vous avez rappelé son lien familial avec Charles Quint. Ce n'est pas le cas pour Anne Boleyn, qui n'est protégée de personne. Et surtout, Anne Boleyn est la victime d'un ralliement de clans à la cour des catholiques. De la petite Marie, qui déteste sa belle-mère, comme on peut l'imaginer, et aussi d'anglicans conservateurs qui déplorent son influence auprès du roi. Donc l'issue est presque inévitable de ce point de vue. Elle ne peut être exilée, elle est trop dangereuse de par ses ramifications dans le royaume.
Dernière petite question, qu'y a-t-il de Anne Boleyn dans Élisabeth Ière, sa fille, qui elle sera reine d'Angleterre durant 45 ans? Ses yeux peut-être, mais pas que?
Oui, alors c'était effectivement une très bonne question. La postérité d'Anne Boleyn à travers sa fille, il est fascinant de voir qu'Élisabeth va refuser de se marier. Elle est nommée la reine vierge et donc elle a bien compris le danger de tout mariage dans l'époque, l'idée qu'une femme est nécessairement sous influence de son mari. Donc en refusant de se marier, on peut penser qu'Élisabeth se distingue de sa mère en se présentant comme l'épouse du royaume et non l'épouse de quelque monarque que ce soit. Autre élément important de l'héritage d'Anne Boleyn au temps d'Élisabeth, c'est la tentative de la réhabiliter par notamment des auteurs comme John Fox, qui vont la présenter au contraire comme une épouse modeste, une épouse qui, de manière prudente et douce, essaye d'amener Henri VIII vers les douceurs de l'Évangile. Et donc, il y a un conflit mémoriel très fort au temps d'Élisabeth entre les partisans d'Anne et ceux, comme beaucoup de catholiques, qui essaient d'en présenter comme une sorcière.
Merci beaucoup Stéphane Gétteau d'avoir mis en lumière avec nous la vie d'Anne Boleyn. Je rappelle le titre de votre livre, L'Angleterre à l'époque moderne, des Tudors au dernier Stuart, que vous avez écrit avec François-Joseph Rudieu aux éditions Armand Collin.
Je vous remercie beaucoup.
Merci
beaucoup.
À vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais plagier, mais en s'appuyant souvent sur quelques écrits. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'histoire où tout est vérifié d'Helen Keller, une écrivaine américaine qui pourrait avoir plagié l'œuvre d'une autre.
Oui, mais nous sommes bien placés tous les deux pour savoir, Stéphane, qu'en histoire, on ne fait jamais que revenir sur les brisées de nos prédécesseurs, car toutes les histoires que nous racontons ont déjà été racontées avant nous, mais du moins pouvons-nous nous les approprier quelque peu. Alors, Helen Keller, oui, elle est née le 27 juin 1880 à Tuscumbia, en Alabama, et elle a une congestion cérébrale à l'âge de 2 ans qui lui fait perdre, lui, la vue, et jusqu'à l'âge de 7 ans, elle sera quasiment incapable de s'exprimer. Du coup, c'est une enfant absolument déchaînée, nerveuse, qui fait des crises de colère, mais des crises de colère de frustration, parce qu'elle n'arrive pas à dire ce qu'elle veut. Ses parents, absolument désarmés, cèdent à ses caprices, mais des caprices qui sont à peine exprimés, elle doit se rouler par terre ou gesticuler dans tous les sens. Elle ne sait pas parler du tout, s'exprimer du tout. Et elle va quand même, à force de volonté, parvenir à apprendre le langage des signes, le braille, et elle fréquentera surtout une école spéciale pour enfants aveugles. Ses études y seront financées par un magnat du pétrole à la demande de Mark Twain. Donc voilà quelqu'un, le grand écrivain Mark Twain, voilà quelqu'un qui avait su attendrir sur la cause de cet enfant un magnat du pétrole qui lui paiera ses études. Et elle va donc être la première personne sourde et aveugle à obtenir une licence de lettres. Alors, elle a produit une œuvre littéraire assez abondante, Helen Keller, mais à une exception près, elle n'a écrit que des ouvrages autobiographiques. Pour quelle raison ? Le premier ouvrage qu'elle a produit, c'était bien une fiction, une nouvelle intitulée « Le roi de Givre ». On est évidemment ébloui par la qualité du récit. On crie au génie dans son entourage, cet enfant sourd, aveugle, muette qui produit cette nouvelle merveilleuse, etc. Toute sa famille est aux anges, bien sûr. Pas pour longtemps, hélas, car l'éditeur reçoit bientôt une lettre lui signalant que la nouvelle en question ressemble en tout point aux Fées de Givre. Et les Fées de Givre, c'est le chapitre d'un recueil de contes publié 18 ans plus tôt, en 1873, Birdie et ses amis les Fées, écrit par une certaine Margaret Comby. Alors là, c'est la douche froide. Hélène, l'enfant prodige, admirée de tous, est alors accusée d'être la misérable plagiaire de l'œuvre d'une autre. Mais on ne trouve le livre incriminé nulle part, ni chez elle, ni à l'école Perkins, qui est l'institut pour aveugles où elle est scolarisée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a inventé cette histoire? Eh bien, selon le psychiatre Carl Gustav Jung, il s'agit là d'un cas de cryptomnésie, c'est le souvenir caché, la mémoire cachée. Donc, selon Carl Gustav Jung, un individu peut en toute bonne foi être convaincu d'être l'auteur d'une chanson, d'un trait d'humour, d'un poète, d'un texte implanté dans sa mémoire, sans être capable de lui attribuer une autre source que son propre esprit. Dans le cas d'Helen Keller, on a fini par découvrir que l'histoire du roi de Givre lui avait été racontée juste une fois, quand elle avait 8 ans. Elle l'avait complètement oubliée, enrichie, et fait sienne avec le temps. Donc elle était parfaitement honnête en disant « mais c'est moi qui l'ai écrit ». Et c'est ce singulier épisode qui lui a fait renoncer définitivement à la fiction. Après, elle n'a écrit que des ouvrages autobiographiques. Mais enfin, au-delà de cet incident, c'est la volonté, la mémoire prodigieuse d'Helen Keller qu'il faut retenir. C'est un miracle que cet être solitaire plongé dans les ténèbres et le silence soit finalement parvenu à communiquer avec l'extérieur et à écrire. Pour rendre cela possible, il fallut le dévouement et l'amour de son ange gardien, Anne Sullivan. C'est elle qui lui a appris le langage des signes. Elle est restée près d'Helen Keller de mars 1887 jusqu'à sa mort en 1936. Donc elle est restée près d'elle pendant 50 ans. Hein, ça, c'est je ne sais pas si votre valet de chambre portoricain, cité Mathieu tout à l'heure, restera
aussi. Ça dépend quelle était la nature de leur rapport.
Alors, je vais vous l'expliquer. Ah oui. Pour communiquer avec elle, Anne Sullivan, elle posait la main sur son visage, un doigt sur le larynx, un doigt sur la bouche, un doigt appuyé contre son nez afin de sentir les vibrations produites par la parole. Elle formait également à toute allure des signes dans le creux de sa main. Et on raconte que le premier mot qu'elle comprit fut « if », donc « si ». Si en français, c'est-à-dire un si qui ouvrit devant Helen Keller l'infini champ du possible et qui allait faire d'elle une écrivaine, suffragette, militante pour la paix universellement connue. Hélène Keller est morte en 68 à 87 ans. Alors, moi, je voudrais quand même signaler, hein, en conclusion, que cette chronique, à moi aussi, m'a ouvert les yeux. Car j'ai découvert qu'une expression que j'utilise à tout bout de champ depuis des années et dont je ne connaissais pas l'origine, c'est « Ah, miracle en Alabama !» Et bien en fait, miracle en Alabama, ça vient du titre de la pièce de théâtre inspirée de la biographie d'Hélène Keller. Vous aussi, vous connaissiez cette expression ?
Non, pas du tout.
Mathieu, miracle en Alabama.
Non, je ne la connaissais pas. Et pas vous enquêterez pour nous savoir d'où vient l'expression, c'est la classe à Dallas.
Mm. Ah oui, je demanderai à mes enfants.
Je ne sais pas si c'est historique.
Ah, ma fille aînée l'utilise constamment, ça. Ah, c'est la classe à Dallas.
Oui.
Ah,
oui, ça a l'air de vous agacer.
Il faudra enquêter.
Merci beaucoup, Clémentine.
Vous restez avec nous, le quiz arrive dans un petit instant.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'heure du quiz a sonné et pour se débarrasser d'un Stéphane Bern de plus en plus coriace, Clémentine commence à établir une liste de solutions plus ou moins radicales à ce qu'elle appelle le problème Bern.
Coup de pelle.
Oui. Jouons sans pelle et sans objet contondant, s'il vous plaît, à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous et elle est facile. Elle est très facile cette question, Stéphane, puisqu'elle nous entraîne au Royaume-Uni. Cher Stéphane, avez-vous déjà été au palais de Sandringham House ? Le lieu de villégiature d'Elisabeth II.
Non, je ne suis jamais allé à Sandringham.
Pas encore été invité là-bas. Tout début du XXe siècle, on avait pour habitude de cacher toutes les horloges, Édouard VII trouvant qu'il n'avait pas à obéir à des contraintes temporelles. Vrai ou faux ?
Je crois que cette histoire est vraie, mais est-ce que c'est Édouard VII ?
Ça se trouve, ça va être Georges V.
Ça va être Georges V et je serais
gros Jean comme devant.
Ouais. Je veux dire vrai.
Vous avez...
C'est Georges V.
Non, ce n'est pas Georges V, ce n'est pas ça le piège. Édouard VII n'avait pas pour l'habitude de cacher toutes les horloges, comme je vous l'ai dit. Édouard VII avait pour habitude de régler les pendules 30 minutes plus tard de l'heure réelle pour pouvoir chasser plus longtemps l'hiver. On appelait ça l'heure de Sandringham. On a fait ça de 1901 à 1936. Voilà.
Donc après sa mort.
Votre mémoire.
Belle histoire.
On l'a continué.
On a continué, puisqu'il est mort. Il est mort. Édouard VII est mort en 1910.
Mais oui, mais c'était une belle tradition. Ensuite, c'est pour honorer sa mémoire.
C'est Georges VI qui est mort en 1936. Et après, il y a eu l'abdication d'Édouard VIII en 1936.
Oui, bon, c'est pas la peine.
Et après,
c'est pas la peine. Georges VI.
Quel mois de l'année ?
C'est pas la peine
décembre.
De frimer. Il sait tout. Il sait tout, sauf les réponses aux questions du quiz.
Oui, parce que c'est pas vraiment des questions d'histoire.
Voilà. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. À Metz. En 1744, Louis XV tomba gravement malade. Il a prié Sainte-Geneviève en lui promettant une église s'il s'en sortait. Il a tenu parole. Il a fait construire l'église Sainte-Geneviève, qui est devenue le Panthéon. Quand les révolutionnaires ont décidé de changer la fonction de l'édifice, ils ont décidé de lui retirer tout caractère sacré. La croix, tout en haut du Panthéon, a été retirée pour en remettre une plus petite. Vrai ou faux ?
Non, alors c'est absolument faux. C'est un des paradoxes de ce Panthéon qui est une sorte de Saint-Denis laïque, c'est qu'il reste surmonté d'une croix et la croix n'en a jamais été bougée. Elle y est toujours.
Vous avez gagné !
Aucune hésitation pour celle qui a beaucoup travaillé sur l'édition du Trivial Pursuit Paris.
Oh, ça suffit avec
que
ça.
Que vous pouvez toujours trouver.
On a l'impression que j'ai passé ma vie
Club.
À ça.
Beaucoup de travaux ont été mis en œuvre pour effacer la fonction d'église, mais la croix n'a pas été touchée. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. 1938, c'est la naissance en Espagne de Juan Carlos et en Allemagne de la coccinelle. Et chez nous, accessoirement, d'Enrico Macias. C'est important aussi de le souligner. Mais on est au cœur de l'histoire, comme dans votre podcast. En 1959, une option est proposée dans une série limitée de la coccinelle, Stéphane. C'est la première fois de l'histoire, 1959 donc, que les vitres d'une voiture sont contrôlées par un bouton. Vrai ou faux ?
En 59 ?
Souvenez-vous, Stéphane, vous aviez 8 ans.
Ah non, je n'étais pas né. Hein.
Ça pouvait être un prototype, non, Stéphane ? Parce que moi, je me souviens que dans les Renault 16, c'est vraiment quand on avait, nous, une douzaine d'années, que les premières fenêtres, c'était plutôt
à la fin. Parce que moi, je me souviens que dans les années 70, il y avait encore...
Oui, bien sûr, les manivelles. Donc c'est plutôt la fin des années 70, mais c'était peut-être un prototype.
C'est un prototype ou pas ?
Non, c'est une option qui est proposée, enfin, en tout cas c'est ma question, en 1959, une option est proposée dans une série limitée de la coccinelle, première voiture avec des vitres contrôlées.
C'est possible, hein, c'est...
Les constructeurs automobiles allemands sont des visionnaires, vraiment.
Oui, les Allemands avaient toujours une longueur d'avance, question automobile.
Mais 59, ça ferait quasiment 20 ans d'avance.
On va dire oui.
Vous dites oui.
Vous avez...
perdu.
Vous entêtez dans les mauvaises réponses aujourd'hui. Hein. Que se passe-t-il, Stéphane? Vous persistez. C'est faux. C'est faux. En 59, des vitres électriques en 59. Mais enfin, n'importe quoi. La coccinelle en 59
on
propose en mieux.
1920,
une option très sympa. Non, c'est pas les vitres, on s'en fout. En 59, cette édition spéciale de la coccinelle propose une machine à café directement intégrée dans le tableau de bord.
Non, arrêtez.
Unbelievable. J'adore l'histoire automobile. Question numéro 4 pour vous, Clémentine.
Oh, vous adorez l'histoire automobile, je vous prendrai au mot, voilà.
Ah oui, allez, vous pouvez me tester. Au Musée national de Téhéran, il existe un vase en terre cuite datant de moins de 2500 avant Jésus-Christ.
Mais oui.
Et si j'en parle, c'est que quand on met de l'eau bouillante dedans, des motifs de décoration apparaissent. Pour l'époque, c'est absolument incroyable. C'est un peu l'ancêtre de la femme dévêtue qu'on trouve au fond des tasses de saké. Vrai ou faux? Stéphane dit oui.
Donc, c'est un pot de terre, en terre cuite. Oui, mais bien sûr, pourquoi pas. Mais
connu.
Pourquoi pas, bien sûr. Mais oui. Alors, je ne pense pas que ce soit une femme nue, mais je dis oui.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais qu'est-ce que... Mais enfin, mais vous n'êtes jamais allé au Musée national de Téhéran?
Bah, ça fait longtemps.
Oh, pas c'est encore, charmant.
Depuis
c'est
la chute du chat.
Depuis la chute du chat, ça remonte.
On a eu du mal à y aller. Oui.
C'est faux. Le vase dont je vous parle existe. Il s'appelle le Shah-i-Sokhta. Et il est tout de même incroyable, puisqu'un bouquetin est dessiné dessus 5 fois. Si vous tournez très très vite le vase, le bouquetin s'anime comme un dessin animé. C'est l'ancêtre du dessin animé. Le vase est l'ancêtre, effectivement, de l'animation, comme on la connaît aujourd'hui chez Pixar. Et oui, ça, c'est incroyable.
Bravo, Clémentine.
C'est Clémentine qui l'emporte.
Encore
voilà,
une fois.
Voilà. Et Stéphane n'a même pas marqué un
non,
point.
Pas un
c'est
point.
À souligner.
Ouais. Miracle en Alabama.
Oui, c'est rare.
(rire) 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, 2 heures pour parfaire votre culture générale, sans négliger vos zygomatiques. Autour de 3 personnages très différents, ils n'ont pas vécu à la même époque, mais Mathieu, ils avaient un point commun.
Ils sont comme nous, Stéphane, à une autre échelle, ils ont de beaux yeux.
Après la reine Anne Boleyn, je vous raconte l'histoire d'une légende du cinéma français à qui Jean Gabin avait dit qu'elle avait de beaux yeux, et c'est vrai. Retour sur le destin de Michel Morgan.
De mon côté, Stéphane, préparez-vous pour une belle tranche de rire. Une avalanche de lol. On va se fendre la poire avec l'histoire de Sharbat Gula, cette petite fille afghane dont les yeux incroyables en une de National Geographic avaient marqué les esprits. Eh ben, le photographe a passé sa vie à la chercher, cette petite fille, il a fini par la retrouver en 2002. La suite, je vous la raconte dans quelques minutes. Mon conseil, munissez-vous d'un Xanax.
Mathieu, ce sont plutôt nos antidépresseurs naturels. Ce sont nos chroniqueurs, David Castel-Lopez, qui remontent aux origines d'une invention.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, le couteau suisse, dont j'ai apporté un bon exemplaire très récent ici.
Ah oui, mais là, vous avez, il est multiple, c'est le gros, là.
Moi, j'en ai des plus petits. Il est balèze.
Il y a un tire-bouchon.
Il y a un tire-bouchon, tout à fait. Et il y a même, vous voyez, il y a une quantité de petits tournevis, c'est assez impressionnant.
Ah oui, il y a des tournevis sur le veau.
Génial, je ne l'ai pas celui-là.
Et puis, avec Olivier Poul, c'est bien... l'origine d'un plat, d'une recette ou d'un mets. Et là, en l'occurrence, le steak caché.
Il n'y a pas de hachoir à viande dans votre...
Non, malheureusement. Malheureusement.
Bon, vous verrez l'histoire assez intéressante au fil du temps du steak caché, ce qu'il nous a apporté en cuisine. Et il n'a pas toujours eu bonne réputation, d'ailleurs. La viande hachée n'a pas toujours eu bonne réputation. Non. On verrait pourquoi.
Parce qu'on pensait que c'était des restes, des bas morceaux.
Voire d'autres choses.
Les amis, à l'observer, durant l'ultime séquence de notre émission, un quiz sadique baptisé La Lutte Finale, j'ai la conviction que, enfant, Stéphane faisait partie de ces gens qui torturent les fourmis. Mais, chut, tout de suite, il y a ceux qui disent...
Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux.
Vous aurez reconnu Stéphane Bern, élève en 4e 2. Et ceux qui disent...
T'as de beaux yeux, tu sais.
Et c'est vrai que les plus beaux yeux, c'est elle qui les avait. Un poil revanchard, Stéphane Bern aujourd'hui nous raconte Michel Morgan, l'actrice qui a inspiré cette phrase culte du cinéma français.
Lorsqu'il lui balance cette réplique en plein visage dans la scène mythique du Quai des Brumes, Jean Gabin n'en est pas à son coup d'essai. Les yeux de la séduisante Michel Morgan, il a déjà plongé dedans. Avec ces yeux-là, vous devez voyager beaucoup et en embarquer pas mal, lui avait-il lancé, après avoir vu ses essais. Monstre sacré du cinéma français, Gabin prend de haut cette jeune première. Je suis sûr que cette môme, elle s'est pas embrassée, lance-t-il à sa costumière. Faut pas parler trop vite, Gabin. Parce que cette ravissante blonde de 18 ans à peine, au ciré noir et béret sombre, après l'avoir fixée de ses yeux d'un bleu clair intense, lui offre l'un des plus beaux baisers
que l'histoire du cinéma ait pu compter. Et l'acteur semble fortement apprécié, peut-être même un peu trop, parce qu'à sa sortie en salle en 1938, le film est carrément interdit aux moins de 16 ans. Mais regardons en arrière. Les plus beaux yeux du cinéma français se sont ouverts pour la première fois le 29 février 1920 à Neuilly-sur-Seine. Elle s'appelle Simone Roussel. Alors qu'elle n'a que 3 ans, un astrologue prédit déjà qu'elle deviendra un jour une star. Aînée de 4 enfants, Simone découvre la scène au spectacle du casino de Dieppe où la famille a déménagé après la crise de 1929. Passionnée de danse, de gymnastique, mais surtout de cinéma, elle dévore Ciné Magazine et cherche à imiter ses actrices préférées, Katharina Hepburn, Joan Crawford ou encore la divine Greta Garbo. L'été de ses 15 ans, Simone remporte le 2e prix d'un concours de photogénie sur la plage de Dieppe. Il faut dire qu'elle est d'une beauté hypnotique. Dans la foulée, elle monte à Paris avec son frère cadet et s'installe chez ses grands-parents à Neuilly. Elle fait ses premiers pas au cinéma aux côtés de Daniel Darrieux dans Mademoiselle Mozart. Simone tape alors dans l'œil du réalisateur, Yvan Noé, qui lui suggère vivement de s'inscrire au cours d'art dramatique de René Simon. À 17 ans, la jeune comédienne prend un pseudo. Adieu son nom de baptême, Simone Roussel se fera désormais appeler Michel Morgan. Michel, simplement parce que ça fait chic, mais aussi parce qu'un garçon de sa classe, qu'elle trouvait plutôt à son goût, lui avait confié son désir de partager sa vie avec une femme qui répondrait au doux nom de Michel. Chacun ses rêves, Mathieu. Et Morgan, eh bien, c'est le nom d'une banque américaine, mais elle trouve que ça sonne bien. En 1937, Michel Morgan, donc, décroche un rôle aux côtés de Rému dans Gribouille de Marc Allégret. Elle signe son premier contrat pour un montant de 12 500 francs et crève l'écran en jouant une immigrée russe qui a tué son riche amant violent. Le succès est immédiat. Dans Orage, encore de Marc Allégret, elle partage l'affiche avec la star du cinéma mondial, Charles Boyer. Son regard profond et magnétique inspire les plus grands artistes. Mais c'est le poète Jacques Prévert qui collabore là pour la 3e fois avec le réalisateur Marcel Carné qui écrit pour elle la fameuse réplique « T'as de beaux yeux, tu sais » du Quai des Brumes qui fait d'elle une icône dès l'âge de 18 ans. Après une brève idylle avec Gabin, Michel Morgan rejoint les États-Unis quand éclate la Seconde Guerre mondiale. À Hollywood, elle fait construire une maison qui deviendra tristement célèbre quand, en 1969, des membres de la secte de Charles Manson assassineront Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, alors enceinte de 8 mois. Michelle épouse l'acteur américain William Marshall, avec qui elle a un fils, Mike Marshall. Si elle danse aux côtés de Frank Sinatra dans Amour et Swing et joue la femme de Humphrey Bogart dans Passage to Marseille, elle aurait pu faire mieux, beaucoup mieux. Eh oui, elle aurait pu tenir le rôle principal de Soupçon d'Alfred Hitchcock, mais ne maîtrisait pas suffisamment l'anglais. Elle aurait pu jouer dans le cultissime Casablanca, qui a révélé Ingrid Bergman, mais son agent réclamait un cachet beaucoup trop élevé. Elle a aussi refusé des rôles et l'a regretté, comme dans Senso de Visconti et dans La Nuit d'Antonioni. Michel Morgan ne connaît donc pas son rêve américain. Dès la fin de la guerre, elle retourne en France et tourne sous la direction de Jean Delannoy, dans la symphonie pastorale, la première de leurs 6 collaborations. Pour son rôle de Gertrude, dans ce film adapté du roman d'André Gide, elle devient la toute première actrice à recevoir le prix d'interprétation féminine du premier festival de Cannes en 1946. Cette fois, ce n'est pas grâce à ses beaux yeux qu'elle est récompensée, car elle incarne une fillette aveugle. Dans Retour de Manivelle, de Denis de la Patellière, l'actrice nous montre qu'elle a plus d'une corde à son arc et étend son répertoire. Elle qui jouait des héroïnes fragiles, la voit la femme fatale dans ce film de série noire. On est étonné de voir comment ses yeux peuvent devenir durs, sa bouche méprisante et sa voix cruelle, commente Paris Presse à l'époque. Après le divorce avec son époux américain, Michel Morgan tombe amoureuse sur le tournage de Fabiola à Rome. Son partenaire de jeu, Henri Vidal, devient son partenaire de vie au bout d'un an et demi. Mais l'acteur se drogue, ce qui provoque sa mort précoce en 1959, laissant Michel Morgan veuve à 39 ans seulement. Elle partage par la suite la vie du réalisateur de comédie Gérard Houry, ancien camarade des Cours Simon. Elle joue sous sa direction dans Le Crime ne paye pas, puis pour Claude Chabrol dans Landru, mais on la voit moins que Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Nous sommes dans les années 60 et la nouvelle vague juge les acteurs d'avant-guerre trop chers, peut-être trop intimidants aussi. Michel Morgan est cantonné dans le cinéma classique, plus traditionnel, et joue Joséphine de Beauharnais ou Marie-Antoinette pour Sacha Guitry, ou une comtesse du XVIIIe siècle dans Benjamin ou Les Mémoires d'un puceau. Claude Lelouch a la chance de la faire jouer plusieurs fois. Finalement, Michel Morgan met en pause sa carrière d'actrice et se consacre à ses autres passions, la mode et la peinture. Mais entre quelques gouaches et collages, la star continue de briller sur les tapis rouges, comme lorsqu'elle est présidente du jury du Festival de Cannes en 1971. Son dernier rôle au cinéma est aux côtés de Marcello Mastroianni dans « Ils vont tous bien » en 1990. Dans sa 97e année, les plus beaux yeux du cinéma se sont fermés définitivement ce matin, mardi 20 décembre, annonçait la famille de Michel Morgan en 2016. Pour se plonger un peu plus dans la vie de l'actrice française la plus glamour des années 50, on peut lire ses mémoires intitulées « Avec ces yeux-là ». Et dire que dans le premier jet du scénario, Prévert avait fait dire à Gabin « T'as de jolies jambes, tu sais », une réplique bien moins romantique qui n'aurait sûrement pas connu le même succès.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Michel Morgan, de Gabin et de Prévert, nous sommes avec Laurence Périgaud. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Bonjour Laurence Périgaud, vous êtes maître de conférences en littérature à l'Université de Nantes et l'auteur du livre Prévert, paru aux éditions Les Pérégrines. Jacques Prévert est surtout connu pour ses poèmes que l'on apprend sur les bancs de l'école. Et justement, dans votre livre, vous avez cherché à mettre en lumière d'autres facettes de Prévert. C'est donc lui, je l'ai dit, qui est à l'origine de la fameuse réplique devenue culte « T'as de beaux yeux, tu sais », que Jean Gabin dit à Michel Morgan dans « Quai des brumes ». Dans votre livre, vous écrivez que Jacques Prévert était passionné de cinéma, que c'était son principal gagne-pain en tant que scénariste et dialoguiste. Alors, pourquoi ne pense-t-on pas à cela quand on entend aujourd'hui encore le nom de Prévert ?
Je pense qu'on y pense un peu quand même, mais c'est vrai que Parole, qui a été un succès phénoménal, a peut-être laissé de côté la carrière cinématographique de Prévert. C'est moins vrai, cela dit, je pense, pour les films de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, etc., qui reste aujourd'hui parmi les films les plus célèbres du cinéma français. Ça l'est davantage pour d'autres collaborations. Je pense notamment aux collaborations avec son frère Pierre Prévert, même si un coffret DVD des films des frères Prévert vient de paraître il y a quelques mois chez Dorian Film.
On parle de Quai des Brumes. Quand Prévert se met à travailler sur ce film, adapté d'un roman, avec Marcel Carné, c'est donc Michel Morgan qui est choisi pour interpréter Nelly, la jeune prostituée dans le personnage de Gabin tombe amoureux. Elle est toute jeune, elle est peu connue. Pourquoi c'est elle qui est choisie ?
Alors, c'est elle qui est choisie parce que Gabin a vu Gribouille, le film qu'a tourné Marc Allégré et pour lequel Michel Morgan joue quand même le premier rôle, alors que vous avez raison, elle est toute jeune. Donc, Denis Stual a appelé Michel Morgan en lui proposant, première réplique, « Est-ce que vous voulez jouer avec Jean Gabin ?» Aucune actrice n'aurait refusé à l'époque de jouer avec Jean Gabin. Et puis, elle lui a dit qu'elle cherchait une actrice qui soit ni fleur bleue, ni femme fatale. Et en fait, ce ni-ni était un petit peu Michel Morgan à l'époque. Même si elle va devenir de plus en plus femme fatale et surtout à partir du Quai des Brumes qui va vraiment la rendre très célèbre.
Mais comment le film a-t-il été perçu à l'époque ? Après tout, nous sommes en 1938, il met en scène un soldat déserteur et une prostituée. Oui. Bon, c'est peu commun pour l'époque. C'est aussi, j'imagine, pour ça qu'il a été interdit aux moins de 16 ans. Ça. Forcément, il y avait de quoi choquer les gens.
Alors, il a été très très bien accueilli par le public. Il y a eu vraiment un nombre très important de spectateurs à avoir vu et aimé le film. La critique dans son ensemble a été élogieuse, mais vous avez raison, on est en 1938 quand le film sort sur les écrans. On sent déjà le fascisme qui est en train d'envahir l'Europe, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Et l'extrême droite accueille évidemment de manière très très négative le film. Il y a des articles très noirs sur ce film qui paraissent dans Action française ou dans Je suis partout. Et plus étonnant peut-être, le Parti communiste s'attaque aussi très fortement au film. Prévert a lâché le Parti communiste à partir de son voyage en URSS en 1933. Ils lui ont pas tellement pardonné ça. Donc Jean Renoir critique le film. Il parle, puisqu'on parle des beaux yeux de Michel Morgan, lui voyait plutôt des yeux de poisson frit. Et c'est comme ça qu'il parlait du film. Beaucoup moins sympathique que l'état de beaux yeux, tu sais. Et puis surtout, il prétend que le film est un film fasciste. Il l'appelle le cul des brèmes. Un film fasciste, pourquoi ? Parce que les personnages de seconde zone, vous l'avez dit, de prostituées, de truands, de déserteurs, donnaient, d'après Renoir, envie qu'un dictateur vienne mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Prévert, vous vous en doutez, n'a pas du tout apprécié qu'on dise de son film qu'il était fasciste, donc il a appelé aussitôt Jean Renoir pour lui dire que s'il redisait à nouveau que son film était fasciste, il lui casserait la gueule. Et Renoir, qui connaissait un peu la réputation de bagarreur de Prévert, qui était plus homme de main comme de plume à l'époque, a arrêté son insulte.
Dans votre livre, vous racontez que le personnage de Nelly était bien différent dans le roman d'origine. Qu'a voulu en faire Prévert ? Quel rôle il a offert à Michel Morgan ?
Alors, le personnage de Nelly, dans le livre, c'est une prostituée qui ment avec tellement de candeur que McCorland dit d'elle que même le personnage le plus naïf ne peut pas croire un seul mot de ce qu'elle raconte. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse dans le film de Prévert. Il y a toujours chez Prévert, dans absolument tous ses films, des personnages un peu, on pourrait dire, babéliens, qui ont l'utopie d'une langue qui serait d'une... comme disait Rimbaud, de l'âme pour l'âme, c'est-à-dire des gens qui ne mentent pas et tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Et c'est ce que dit... C'est le personnage qu'a créé Prévert pour Michel Morgan. Et c'est pour ça que Gabin tombe amoureux d'elle. On voit bien qu'il n'a pas dû tomber amoureux souvent. On voit bien que c'est un homme qui a vécu, ce qu'on pourrait dire, une chienne de vie. Et puis d'un coup, il rencontre cette jeune fille qui est à la fois prostituée, mais qui reste quand même très candide et qui lui dit des mots qu'il touche beaucoup et qui vont le conduire à être lui-même sentimental et à lui dire qu'elle a de beaux yeux.
Stéphane le disait tout à l'heure en chute de son récit, et c'était assez surprenant quand on ne connaît pas l'histoire, que la réplique originelle de Prévert était « t'as de jolies jambes, tu sais ». Il l'a changé en découvrant les beaux yeux de Michel Morgan. Comment ça s'est passé ?
Ouais, en fait, Prévert écrivait, il disait qu'il avait un amour d'abord pour les acteurs, plus encore que pour le cinéma. Et il avait toujours en tête ses acteurs quand il écrivait. Il a toujours les mêmes acteurs. Pierre Brasseur revient toujours. Arletty, vous le savez, revient à plusieurs reprises. Jean Gabin a fait plusieurs films avec lui. Et Michel Morgan, il ne la connaissait pas. C'est Gabin qui décide de la faire venir sur le tournage. Et donc, il ne la connaît pas. Et donc, il écrit T'as de jolies jambes parce que le scénario se prêtait à ça. Et puis Prévert allait toujours assister au tournage, un seul passionné, le monde du cinéma. Et donc on peut imaginer que sur le tournage, découvrant l'actrice qui allait jouer Nelly, il a changé avec beaucoup de justesse le t'as de jolies jambes, bon, tu as de beaux yeux, tu sais, et ça fonctionne bien.
Dans votre livre, vous écrivez que Prévert a livré des mots d'auteur inoubliables. Cette réplique, donc, t'as de beaux yeux, tu sais, en est l'exemple parfait. Comment il arrivait à calibrer les dialogues pour les rendre à la fois réalistes et légendaires ?
Alors, bon, ça, je ne vous cache pas que c'est un peu le mystère de la poésie. Si je le savais, je serais plus poète que maître de conf. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, c'est ce que je vous disais, il réfléchit vraiment au dialogue en fonction des acteurs. C'est-à-dire que si Jules Berry, par exemple, avait dit « le tas de beaux yeux, tu sais », ça aurait ressemblé à ce que vous avez dit là juste avant avec « ton père est un voleur », etc. C'est-à-dire un truc un peu rigolo, mais un peu banal,
un peu lourd, disons.
Un peu lourd, hein. Et en fait, le tas de beaux yeux, tu sais, c'est dit par Gabin, qui est vraiment toujours dans les rôles que lui donne Prévert, un taiseux, quelqu'un qui gaspille pas du tout ses mots. Et du coup, d'un coup, cette phrase, t'as de beaux yeux, tu sais, qui chez Jules Berry aurait juste fait un peu lourdingue, devient vraiment une phrase pleine de sincérité et d'émotion. Et je pense que la poésie de Prévert, en tout cas, c'est ce qui me plaît, moi, chez Prévert, c'est qu'il y a toujours cette sincérité, cette émotion dans les mots qu'on pourrait penser être les mots les plus banals.
Et ce qui plaît chez Prévert à Stéphane, c'est surtout cette scène du baiser, Stéphane. Vous a ému cette scène du baiser. Oui. C'est un baiser, un vrai baiser de cinéma iconique. Pourquoi est-ce qu'il est si célèbre, ce baiser ?
Alors, est-ce que c'est un vrai baiser de cinéma ? Si c'était un vrai baiser de cinéma, les personnages auraient fait semblant de s'embrasser.
Oui.
Et pourquoi il est si célèbre ? C'est parce que Gabin était évidemment tombé sous le charme de la petite... De la petite Michèle Morgan, qui était quand même encore un peu timide, donc il avait séduite, elle avait un peu cédé, mais pas jusqu'au bout, raconte-t-elle dans son livre, en tout cas pas sur ce film, elle le fera sur Grémillon, parce que c'est une histoire d'amour qui va durer un peu. Mais donc, effectivement, Gabin l'a un petit peu cherché, ce que vous avez dit, elle s'est pas embrassée, cette môme, et en fait, il s'est rendu compte que visiblement, elle savait très très bien embrasser.
Elle lui a appris très vite.
Voilà, elle a appris avec Gabin, c'était pas le... Oui. Plus mauvais sans doute.
Preuve qu'il n'y a pas que les yeux, il y a la bouche qui compte aussi et les mots qu'on dit. Merci Laurence Périgaud d'avoir décortiqué avec nous le fameux tas de beaux yeux, tu sais, écrit par Jacques Prévert pour Michel Morgan dans Quai des Brumes. Je rappelle votre livre Prévert, sorti aux éditions Les Pérégrines.
Merci.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces femmes qui avaient de beaux yeux. Après Anne Boleyn et Michel Morgan, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de celle qui restera probablement dans la mémoire collective la plus célèbre petite fille afghane.
Oui Stéphane, la première fois que David Castello-Lopez, entre deux séances de découverte de l'infiniment petit au microscope, était tombé sur la photo en une de National Geographic de Charbat Gula, cette fille aux yeux d'un vert lagon, il avait voulu lui envoyer un mail pour lui dire:
vous avez des yeux incroyables, je n'en ai jamais vu d'une couleur pareille.
Bon, heureusement, il n'avait pas réussi à trouver son adresse perso, ça tombe bien, elle avait 12 ans. Elle était une
petite fille afghane. De l'autre côté de la terre.
De l'autre côté de la terre, et pour être un peu plus précis qu'Axel Red, au Pakistan. Fascinant Pakistan. Mais oui. La photo devenue culte de l'Afghane aux yeux verts a été prise dans un camp de réfugiés afghans au Pakistan. En 1984, les Bleus venaient de gagner la Coupe d'Europe, moi de faire mes premiers pas et Stéphane d'ouvrir son premier compte à numéro au Luxembourg. Tout ça ne nous rajeunit pas.
Mais non.
Charbat Gula, donc. Son nom ne vous dit rien, mais son visage vous dit tout. Vous savez, on dit souvent que la beauté est subjective. On le dit notamment à ses parents de nouveau-nés qui insistent pour nous montrer des photos de leur progéniture à la sortie de la maternité. Une formulation de politesse qui nous permet de ne pas leur livrer la vérité crue, à savoir...
C'est une sorte de strum.
Eh bien, quand on regarde la photo de Charbat, l'Afghane aux yeux verts, on se dit que non, finalement, la beauté n'est pas si subjective que ça. Concernant Charbat, il ne peut pas y avoir de débat. Personne ne peut dire « Ouais, pas mon style ». Non, Charbat est sublime, tout style confondu. Et c'est ce vénard de Steve McCurry, photographe de National Geographic, qui a donc capturé son regard. Photo qui fera la couverture de National Geographic en 1984. De grands yeux verts, mis en valeur par un foulard rouge, un regard si perçant qu'on a du mal à le soutenir. Une image qui devient si célèbre que Charbat devient, sans le savoir et sans filtre méfaire Instagram, l'icône du peuple afghan. Dans son pays natal, on la surnomme même la Mona Lisa afghane. Des honneurs dont elle se fout royalement, sachant qu'elle n'a aucune idée que son visage est devenu célèbre. Son histoire commence donc lors de l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques en 1979. Ses parents sont tués et elle va fuir le pays à pied avec son frère et sa grand-mère. Alors vous me direz, rallier le Pakistan à pied depuis l'Afghanistan, ça peut être fun. Sylvain Tesson l'a fait pour le plaisir. Oui Stéphane, mais avant lui, il était passé au vieux campeur. Il avait l'équipement, pas la malheureuse Charbat qui doit escalader des montagnes enneigées sans Gore-Tex. La route est longue jusqu'au camp de réfugiés de Nazir Bagh. Une fois sur place, elle est abritée sous une tente reconvertie en école. C'est là que le photographe Steve McCurry la voit. Non les gars, elle a 12 ans. Il la voit, la photographie seule avec d'autres, clic-clac, merci Kodak, leur chemin se sépare. Steve ne sait pas que sa carrière vient grâce à elle de basculer. Il vient tout simplement de réaliser le cliché le plus célèbre de la dernière moitié du XXe siècle. Pendant 20 ans, la jeune femme va rester anonyme, jusqu'en 2002. Car pendant des années, Steve reste hypnotisé par ce regard. Qu'est devenue cette petite fille? A-t-elle survécu? C'est elle que son regard est célèbre dans le monde entier. Il cherche, parce que c'est un gars bien, le McFlurry, il cherche le moyen de rendre à Charbat ce que Charbat lui a donné. Chou blanc pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'enfin, donc en 2002, il la retrouve dans les montagnes séparant le Pakistan de l'Afghanistan. Oui, c'est vaste, hein, vous savez, comme territoire. Un analyste du FBI, spécialisé dans la reconstitution faciale et inventeur du système de reconnaissance de l'iris, intervient pour qu'on soit bien sûr que c'est vraiment elle. Et banco, l'analyse est formelle, c'est bien elle. C'est la Mona Lisa afghane. L'émotion pour McFlurry, vous vous en doutez, est immense. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins? Eh bien oui, précisément Stéphane, elle s'est mariée et elle a trois gamins. Steve lui apprend alors la grande nouvelle. Son visage est connu dans le monde entier. Elle n'en avait aucune idée. D'une main tremblante, il lui montre la une de National Geographic de l'époque. L'émotion la submerge, mais l'émotion, ça ne paye pas. Ce qu'elle aimerait, Charbat, c'est de pouvoir offrir à ses filles l'éducation qu'elle n'a jamais eue. Steve est bouleversé, il commence par reprendre une photo, 20 ans après. Paf, deuxième une de National Geographic pour Charbat, mais cette fois, Steve veut qu'elle touche des droits dessus. Il veut l'aider et il ne veut pas qu'on s'imagine qu'il fait du blé sur le dos d'une réfugiée afghane. Un fonds est donc créé en partenariat avec le magazine afin de faire parvenir de l'argent tous les mois à Charbat et sa famille. Les années passent et, comme certains reprochent encore à Steve McCurry d'exploiter la misère pour étoffer son PEL, le photographe commence à donner plus de détails. « Ma sœur lui a acheté une maison au Pakistan qui lui a coûté 70 000 $. C'est quelque chose que nous faisons mais nous ne communiquons pas dessus car nous ne voulons pas que les gens profitent d'elle au Pakistan. » Nous l'avons aidé parce que c'était ce qu'il y avait à faire, pas pour s'en vanter. Ok, on le croit. Moi j'ai envie de le croire. Il y a évidemment la polémique concernant le vert inouï des yeux de Charbat. Tout le monde s'est déjà posé la question, sauf bien sûr le père de David. Ce coquin de McFlurry aurait-il eu un chouïa recours à Photoshop? Eh bien, en 2016, il reconnaît que plusieurs de ses photographies ont été retouchées ou mises en scène. Le portrait de la jeune afghane en ferait partie. Il a bien été retravaillé au niveau des yeux, notamment pour gommer à la demande du magazine la saleté et la boue. Mais le vert des yeux, lui, promis juré, n'a pas été trafiqué. Alors, Que devient Sharbat depuis ? J'aimerais vous dire qu'elle vit heureuse au Pakistan, entourée de ses enfants devenus grands, et que le soir venu, toute la famille fait la fête. Mais hélas, non. En 2016, McFlurry s'enflamme sur la...
Il s'appelle McFlurry.
En 2016, McFlurry, c'est mon poteau, s'enflamme sur les réseaux sociaux pour dénoncer, je cite, « la honteuse violation des droits de l'homme dont est victime Sharbat, arrêtée à Peshawar, accusée d'avoir obtenu de faux papiers d'identité. L'histoire est très confuse, mais elle risque alors entre 7 et 14 ans de prison, voire l'expulsion pure et simple. C'est hélas ce qui va se passer quelques mois plus tard. Le ministre de l'Intérieur pakistanais assure revoir cette affaire sous un angle humanitaire. McFlurry le conjure de bien vouloir mettre de l'eau dans son vin. Je ne bois pas de vin, je suis pakistanais, lui répond l'autre. Bref, c'est le scénario du pire qui se dessine. La justice pakistanaise rejette la demande de libération conditionnelle de Sharbat, qui est désormais veuve en plus, et se met de retourner en Afghanistan, cet Afghanistan qu'elle avait fui enfant. Abasourdie, elle déclare « L'Afghanistan n'est que mon lieu de naissance, mais le Pakistan était ma patrie et je l'ai toujours considéré comme mon propre pays. » Une fois sur place, le président de l'époque, Ashraf Ghani, organise en personne une cérémonie en son honneur. Il la loge dans une villa de 280 mètres carrés, rien n'y fait, Sharbat est malheureuse. Steve McCurry résume d'une phrase son destin tragique. Sharbat Gula a été le symbole des réfugiés pendant des décennies, elle est aujourd'hui celui des immigrés rejetés. Et encore, ça ce que je vous raconte, c'était avant, l'été 2021, l'ancien gouvernement afghan, outre la villa, avait mis en place une rente de 600 euros par mois au profit de Sharbat. Et si elle ne vivait pas heureuse, du moins pouvait-elle vivre. Aujourd'hui, je ne vous fais pas un dessin, depuis la prise de pouvoir des talibans, on n'a évidemment aucune nouvelle de Sharbat. Elle serait toujours en Afghanistan, elle n'aurait pas réussi à fuir. Voilà, c'est la, à la fin de mon portrait d'habitude, il y a toujours un son rigolo de David qui queen ou de Stéphane qui dit « Oh les mains !» pas aujourd'hui, parce que s'il y a un destin qui s'accommode mal des pirouettes comiques, c'est bien celui de cette belle afghane aux yeux verts qui, dans sa jeunesse, avait fui en enfer où son pays d'accueil a décidé de la renvoyer 32 ans plus tard.
Merci Mathieu. Restons sur notre émotion.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour et c'est dommage parce qu'elles avaient vraiment de beaux yeux.
Oui, mais Castello et Pouls aussi. Et en plus, parfois, les yeux de Pouls brillent, surtout quand ils nous parlent du steak haché, n'est-ce pas Olivier?
Vous auriez envie d'un petit steak haché ce soir, par exemple?
Très
avec
bien.
Un œuf à cheval.
Ah oui, par exemple, ouais. Mais je vais vous donner une recette d'un steak haché un peu sympa, un peu original.
Mais tout de suite, David Castello-Lopez qui remonte aux origines du couteau suisse.
Oui, le couteau suisse, c'est un objet qui est vraiment très exaltant à acheter.
Ah ouais.
Parce que quand vous êtes dans le magasin et que vous ouvrez à un les petits outils qu'il contient, pour chacun d'eux, vous faites un petit film dans votre tête du moment imaginaire où vous allez être susceptible de l'utiliser. Alors il y en a pour lesquels c'est facile, hein, le tire-bouchon. Vous voyez, attends, mais si jamais on est en forêt avec une bouteille de vin et que personne n'a tire-bouchon, je serais bien content. Le couteau, attends, si jamais je dois découper un chat, t'imagines, galère sans couteau. La petite paire de ciseaux qui se déplie, attends, une urgence de circoncision, hop, tac, les petits ciseaux, vous voyez. Et c'est vrai que je suis obligé de dire, en vérité, les circonstances où un couteau suisse m'a été indispensable dans mon existence ont été assez rares.
Mais vous faites pas de pique-nique, c'est pour ça.
Voilà, c'est peut-être pour ça.
Et pourtant, on les oublie dans la poche et puis après il faut voyager.
Quand j'étais à Genève cette année, j'en ai acheté encore un. Et j'ai même fait graver mon numéro de téléphone dessus au cas où je le perdrais, vous voyez. Parce que si je le perds et qu'il y a une urgence de circoncision, encore une fois, je suis dans la merde, vous voyez.
La personne ne va certainement pas vous le rendre.
Si, en Suisse, oui, à Genève,
en
vous
Suisse,
le perdez,
exactement,
vous
voilà.
En France, si tu fais ça à Paris,
c'est mort, après il peut y avoir dommage. Alors le couteau suisse, c'est pas du tout le premier couteau multifonction du monde. Il y en avait eu plein avant, mais c'est le plus célèbre. Ces versions primitives, elle date de 1880, à l'époque où l'armée suisse s'est dit que ce serait bien que les soldats aient un outil standard et compact pour gérer leurs tâches quotidiennes, et notamment un petit tournevis pour démonter leurs fusils. Et du coup, ils ont rendu obligatoire un couteau qui ressemblait un petit peu à celui-là. Mais il n'y avait pas d'entreprise qui avait la capacité de produire des couteaux suisses en Suisse. Et donc, les 15 000 premiers exemplaires, ils ont été fabriqués en Allemagne. Et voilà, fun fact intéressant. Jusqu'à ce que un monsieur suisse qui s'appelait Karl Elsner, il se dise ce serait quand même mieux qu'on les fasse en Suisse. Et à partir des années 1890, il a réussi à fabriquer les couteaux suisses en Suisse et pas dans n'importe quelle Suisse, dans n'importe quel morceau de la Suisse, puisque les couteaux suisses, ils sont produits en très grande partie à Schwitz, dans le canton de Schwitz, qui, vous le savez, est le canton qui a donné son nom à la Suisse.
Suisse,
ben oui, voilà. Donc c'est impossible d'être plus suisse que le couteau suisse, vous voyez. Le couteau suisse qu'on connaît aujourd'hui, il date en gros donc de cette époque, de la fin du 19e siècle. L'entreprise de Karl, au départ, elle n'avait pas de nom. Et puis, en 1909, la mère de Karl est morte et sa maman, elle s'appelait Victoria. Et donc, en son hommage, il a appelé l'entreprise d'abord Victoria. Et puis, à partir des années 20, quand les lames ont commencé à être fabriquées en inox. Victorinox. Voilà. Victorinox, ils n'ont pas arrêté aussi d'ajouter des nouvelles fonctions à leur couteau. Déjà parce que bon, c'est fun, mais aussi parce que les brevets déposés par Victorinox ne sont valables que pendant 20 ans. Or, en rajoutant un élément dans le couteau, ils peuvent prolonger le brevet de leur couteau pendant 20 ans de plus. Le roi des couteaux suisses Victorinox, c'est un modèle qui s'appelle le Swiss Champ XAVT, qui a 83 fonctions.
Et 83
fonctions. Il coûte 380 euros,
ah
je crois, quelque chose
très,
comme
très
ça.
Beau couteau, là.
Parmi ces 83 fonctions, il y a un écailleur à poisson, par exemple, si jamais vous voulez écailler un poisson.
C'est un des plus beaux cadeaux qu'on pourrait faire à Olivier.
Voilà. Il y a une scie à métaux aussi, quand même, dans le XAVT. Il y a un altimètre. Le couteau suisse aujourd'hui, il est quand même obligatoire dans plein d'armées. Alors, tous les Suisses, bien sûr, en reçoivent un quand ils font leur service militaire. Mais il est aussi obligatoire dans l'armée de Malaisie, dans l'armée allemande. Et c'est vrai que quand on est soldat, c'est vrai que les circonstances où on est susceptible d'utiliser un couteau suisse sont quand même plus fréquentes. Mais quand même, les ventes de couteaux suisses, elles se font quand même largement ailleurs que dans les armées. Il y a des centaines de millions de gens qui ont acheté des couteaux suisses. Mais il y a un événement qui a failli détruire l'entreprise Victorinox. Et cet événement, c'est bien sûr le 11 septembre. Et oui, parce que depuis le 11 septembre, on ne peut plus emmener un couteau dans un avion. Oui. Et les poubelles de la sécurité dans les aéroports, elles se sont remplies de couteaux suisses que les agents jettent devant les cris de leurs propriétaires. Vous avez déjà vu des gens hurler parce qu'on leur jette leur couteau. C'est fini. En 2013, le PDG de Victorinox, il a estimé que le 11 septembre avait fait baisser les ventes de 40% dans les couteaux suisses, parce qu'aussi il y avait plein de gens qui les achetaient dans les aéroports comme une sorte de petit cadeau de souvenir. En tout cas, moi je continuerai à en acheter, même si je m'en sers jamais, on peut le dire.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Le quotidien d'Olivier Poul, c'est une fois de temps en temps un bon steak haché. Mais le steak haché, Olivier, depuis quand ça existe et d'où ça vient ?
Faut dire que c'est bon. C'est indispensable pour l'élaboration aujourd'hui d'un hamburger. Non, si c'est bien fait, si la viande de départ est de qualité, il n'y a aucun problème. C'est bon. Donc pour l'élaboration d'un hamburger, pour faire des boulettes ou encore farcir des légumes, par exemple, on peut dire que le steak haché, en ce moment, il a plutôt la cote. Et si l'homme consomme évidemment de la viande depuis la nuit des temps, il a toujours eu un petit problème vis-à-vis de certains morceaux de l'animal, qui sont des morceaux qu'on a besoin d'attendrir, qui sont des morceaux durs. Si vous prenez le bœuf, par exemple, toutes les parties avant du bœuf contiennent beaucoup de collagène, c'est du muscle, il y a peu de gras et ce sont des morceaux durs. Et ces morceaux, on a toujours eu besoin de les attendrir par différents moyens. Alors, par exemple, les Tatars, ils mettaient des morceaux de bœuf sous la selle de leur cheval, tac, 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 ils galopaient, ça permettait d'attendrir la viande. On faisait aussi des cuissons très longues. Le pot-au-feu, par exemple, c'est une manière d'utiliser ces viandes, de les attendrir. Les Romains, ils découpaient déjà la viande en tout petits morceaux parce que c'était plus facile à manger, notamment quand on était en position assise, plus facile à digérer. Donc, ils avaient en quelque sorte déjà un petit peu de la viande hachée. Et puis surtout au Moyen-Âge, on utilise aussi la viande hachée, surtout, et alors ce sont les pâtissiers qui l'utilisent, parce que les pâtissiers à l'époque, c'est eux qui faisaient les pâtés en croûte. Cette époque-là, la viande hachée, elle n'était pas très bien vue, et notamment par la haute société, parce qu'on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dedans. Oui. Caché sous une croûte de la viande réduite en petits morceaux, ça peut tout aussi bien être du bœuf
que Olivier Pouls,
ou du chat ou d'autres choses. Et d'ailleurs, au 19e siècle, on autorise la consommation de la viande de cheval parce qu'on veut donner au peuple de la protéine. Et à ce moment-là, justement, hacher cette viande devient un moyen de cacher, entre guillemets, la provenance de ce que c'est. On faisait beaucoup de steak haché de cheval parce que même s'il fallait manger de la protéine, les gens avaient quand même un peu de mal à accepter de manger les chevaux. Et puis, les premiers hachoirs à viande manuelle avec les grilles, vous savez, telles qu'on les connaît aujourd'hui, vont arriver vers les années 1910. Mais avec la viande hachée, il y a toujours un autre problème, c'est le problème de l'hygiène. Parce que ces hachoirs à viande, ils deviennent des espèces de bouillons de culture pour microbes et ainsi de suite. Donc il fallait recuire la viande derrière. Puis il fallait surtout bien les nettoyer, c'est pas très facile. Ce qui va changer, c'est l'arrivée des systèmes de conservation et du froid, notamment au début du XXe siècle, où là on va pouvoir faire de la viande hachée en quantité importante, et notamment pour nourrir les armées. Ce sera très important dans la manière d'approvisionner les armées pendant les deux guerres. Et puis surtout, ce qui va vraiment tout changer, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrêt de tous les plats mijotés. On n'a plus le temps dans les familles, on ne veut plus cuire la viande trop longtemps, donc on a besoin de solutions très rapides. Et là, ben voilà, pour justement consommer ces pièces de bœuf qui sont moins nobles, qui ne sont pas la côte, l'entrecôte, le rhum sec, etc., on va développer la production de viande hachée avec la petite forme qu'on connaît un peu ovale aujourd'hui, le portionnage autour de 100 grammes, et puis évidemment la popularisation du hamburger qui est aujourd'hui le principal consommateur de viande hachée, notamment en France. Et on peut même dire que grâce au hamburger, la filière complète bouchère et bovine continue à s'équilibrer. Parce que dans un bœuf, bah, y a 8 côtes, y a un filet, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de viande dont on ne savait pas très bien que faire. Et aujourd'hui, grâce à ce steak haché, qui connaît la forme qu'on lui connaît depuis 1958 exactement, eh bien, le steak haché est vraiment devenu quelque chose de très populaire. Et alors, le steak haché, on peut le manger, comme vous l'avez dit, tout simplement poêlé avec un œuf par-dessus, c'est délicieux. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est faire un steak haché que j'appelle complet. Donc, j'apprends 350 grammes de bœuf haché. Je vais rajouter dedans un œuf, un oignon émincé que j'aurais fait revenir juste avant, de la ciboulette, un tout petit peu, une petite goutte de lait pour donner du moelleux, un peu de chapelure, un peu de piment d'Espelette. Je reforme des steaks hachés et ensuite je les poêle.
Oui.
Ça devient un steak haché complet dedans. Vous avez évidemment de la protéine, vous avez un petit peu de légumes avec de l'oignon.
C'est une sorte de tartare cuit, on
pourrait dire. Il n'y a pas de tartare cuit, bah, si vous voulez, mais le tartare, c'est, par définition, c'est cru. Mais c'est un peu, c'est un peu constitué par des éléments qui pourraient faire un tartare. Et il faut le garder évidemment un petit peu moelleux à l'intérieur. Et c'est un bon repas facile qui plaît aux enfants et aux parents.
Vendu. Bravo Olivier Pouls, on retrouve toutes vos recettes alléchantes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est le moment de l'émission, Stéphane, où je m'incline toujours pour une raison indépendante de ma volonté, puisque je réponds toujours juste, mais je ne gagne jamais à la lutte finale.
C'est un quiz historique de référence maintenant. Olivier, tout le monde connaît Eugène Poubelle, Louis de Béchamel, qui a donné son nom à la sauce. Mais est-ce qu'on se souvient de Marcel Tépaz ? On lui doit le premier tourne-disque à 78 tours. Cette invention a été élaborée durant l'occupation. Vrai ou faux ?
Durant l'occupation, le tourne-disque... Non, ça existait avant, je pense. En tout cas, les gramophones existaient avant. Donc, qu'est-ce qu'il aurait inventé de plus ?
Question porte sur le nom du type ou sur la date de création ?
La date de création du premier tourne-disque du Tépaz, quoi.
Oh non, je pense que c'est avant ça.
Non, durant l'occupation, la fabrication d'ampli est interdite. Du coup, Marcel Tépaz, qui a 30 ans, bricole des phonographes en remplaçant la manivelle par un moteur électrique. On lui doit également l'invention du manche-disque qui s'est vendu à des millions d'exemplaires en France et à l'international. Moi aussi, j'en avais un. David, c'est pour vous, David. Restons dans l'autonomase. Quand un nom propre devient un nom commun, un écho, ça vient d'une nymphe grecque qui s'appelait Écho. C'est vrai ou c'est faux ? L'écho, écho, 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 écho.
D'une nymphe grecque qui s'appelait Écho ?
Écho.
Non.
Non. Écho était dans la forêt. Elle avait été condamnée à répéter tout ce qu'elle entendait. C'était cruel car elle était dans la forêt. Elle avait été condamnée à répéter tout ce qu'elle entendait.
C'est le gag, non, le gag est bon.
Mathieu, l'orange est arrivé de Chine, pas à pied, mais par des croisades au XIe siècle. Est-ce qu'on a dit d'abord orange ou orange ? Autrement dit, est-ce que c'est le fruit qui a donné son nom à la couleur ou l'inverse ?
Ça, c'est une très bonne question pour le coup. Ouais. C'est presque la question la plus intéressante qu'on ait jamais eue dans ce quiz. Oui. Merci de me la poser. merci de me la poser. Même
merci
si
surtout de donner une bonne réponse.
Oui, ben, laissez-moi réfléchir. Je suis encore sous le choc de la contrepétrie qui était dans la question de Stéphane. Voyons voir. L'orange est arrivé à pied de la Chine. Mais est-ce qu'on a dit orange ? Est-ce que la couleur ? Est-ce que l'orange a donné ? Guillaume d'Orange. Alors attendez, c'est quelle époque ?
11e siècle.
Je dirais que la couleur. L'orange a précédé le fruit, l'orange.
C'est faux. C'est le fruit qui a donné le nom de la couleur.
Et avant, cette couleur s'appelait comment, alors,
safran.
Stéphane ?
On disait safran.
Safran, ça n'a rien à voir, le safran.
Mais si, c'est la couleur.
Qui venait lui-même du safran, probablement.
Voilà, exactement.
D'accord.
Et c'est à partir du moment où l'orange est arrivée que tout ce qui était safran, on l'a appelé orange.
Je vais vous dire, il y a des défaites qui sont moins amères que d'autres. Oui, je suis heureux d'avoir appris
c'est
ça.
C'est pas les oranges amères.
Alors, confiture préférée.
Alors, maintenant, la question qui départage. La réponse la plus proche remporte la lutte finale. En novembre 2019, on a compté le nombre de prix Nobel qui ont été décernés, toutes catégories confondues. 896 hommes ont été récompensés. Combien y a-t-il eu de femmes ?
37.
37, vous Mathieu ?
Bon, je sais pas, j'exagère peut-être, mais je vais tenter le plus bas. Je vais dire 18.
80.
C'est Olivier qui est le plus proche ? Oui, c'est Olivier qui est le plus proche. C'est la... Non, parce que je me demandais si entre...
Mais j'aurais dû dire 38.
Il y en a 54. Donc 54 femmes.
Et oui, je disais d'être un tout petit peu au-dessus,
finalement. 80 moins 54, ça fait 26. Et vous, entre 37, ouais, c'est vous qui avez gagné. C'est Olivier qui a gagné.
C'est bien Olivier qui triomphe. Vous êtes dégoûté, David, on dirait.
Ouais, ça m'énerve parce que vraiment, en fait, je me suis dit, c'était tellement bête, il fallait dire 38, juste un de plus parce que je pensais que c'était plus. Et
ouais, c'est, mais c'est pour ça que je ne donnerai plus jamais le premier chiffre.
Et là, tu l'as donné, t'as quand même gagné.
À chaque fois, je me fais avoir.
Belle victoire de la Belgique aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Un nouveau numéro de notre émission s'achève, les amis. Il était consacré à ces femmes qui avaient de beaux yeux, tu sais. Alors Stéphane, qui de Anne Boleyn, Michel Morgan ou Charbat Gula vous a le plus ému ?
J'étais ému par le destin de Charbat Gula, évidemment, parce que son destin est incertain.
Et puis qu'il est en cours,
oui.
Quelque part. Demain, Stéphane, nos personnages sont comme David.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains
oui,
pas.
Oui, demain, comme le chanteur Castelo Lopez, nos personnages possèdent des thunes et ils sont à l'aise financièrement. On réunit d'heureux héritiers, Marisset, Victor Astor et Benjamin de Rothschild.
Vous m'en donnerez un petit peu, que je prépare efficacement l'émission.
De quoi, Mathieu ?
Bah, des thunes. Pour en parler, il faut que je vois ce que c'est.
Ah bah, faudrait déjà que j'en trouve.
Non.
Bon, bah, ok, si ça peut vous amuser, voici quelques pièces.
Ah, merci, monseigneur, merci.
De rien, mon jacouille. À demain, Mathieu, à demain, les amis.
À demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.